Donc, arrivé dans l'heure, dans le monde du jeu de société, c'est-à-dire quand j'ai commencé à jouer ou quand j'ai voulu.
Et ben les deux, parce que alors tu es à l'origine de la création de cette association, tu es
Oui.
le fondateur d'ailleurs même.
Oui.
Alors, première question, depuis quand joues-tu? C'est peut-être par là qu'on devrait commencer. Depuis quand joues-tu? Est-ce que c'est une passion qui est depuis tout petit, qui est ancrée chez toi, ou c'est quelque chose qui est venu un peu avec le temps?
Ben pour le en fait pour le jeu, c'est surtout arrivé quand j'ai commencé les jeux de rôle, donc c'était vers 12 ans. Et après ça a commencé à augmenter petit à petit, j'achetais des jeux de société quand je pouvais, des jeux de rôle et je jouais avec mes potes.
Et alors du coup maintenant deuxième question, comment es-tu venu à créer une association finalement de jeux? Parce que entre aimer jouer et créer une association, il y a évidemment un monde d'écart.
Oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup aider des associations, que ce soit pour les jeux de société ou des associations filiéristes. Et à un moment de ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour le jeu de société et pour les étudiants. Et au final, je me suis rendu compte que quand on est étudiant, on n'a pas forcément la possibilité de s'acheter des jeux de société ou forcément d'adhérer à une association pour faire du jeu de société et se retrouver avec d'autres personnes un vendredi soir. En général, le vendredi, on rentre chez soi pour le week-end.
Et tu es étudiant toi-même d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Alors justement, l'association Sociabilité Games, tu m'as dit en antenne que finalement c'était pas une association de jeux consacrée uniquement aux étudiants, mais à tout le monde. Et est-ce que tu peux la présenter? Elle a été créée en janvier 2017, donc finalement elle a à peine un an.
Oui. On est parti sur quelques soirées hors associatif, puis après, suite à la réussite de ces événements, on a décidé de créer l'association. Donc, on se base principalement sur les étudiants comme première cible, justement pour cette mission de pouvoir offrir aux étudiants une activité pas chère et accessible. Et ensuite, on s'ouvre à tous parce qu'on a tous des amis qui ne sont pas forcément étudiants et c'est toujours agréable de pouvoir rencontrer d'autres personnes que les mêmes réseaux.
La mission de l'association, c'est la promotion du jeu de société
Oui.
au sens large. Alors, vous êtes labellisé étudiant, enfin, c'est l'association est labellisée étudiante. Qu'est-ce que ça signifie être labellisé étudiant?
Alors, être labellisé association étudiante, c'est respecter la charte de l'université, notamment sur différentes, comment dire, sur différentes responsabilités. Justement, suite à cette charte, on assure qu'on respecte toutes ces responsabilités, notamment créer des événements qui soient justement des événements sans alcool et qui soient assez gérés au niveau de la sécurité. Ça, quand je dis sécurité, ça va être sécurité au niveau des boissons, des sorties, des choses comme ça.
Est-ce que tu peux évoquer maintenant un peu l'équipe? Parce que tu es à la base. Est-ce que tu es seul à avoir créé l'association à la base ou vous étiez déjà plusieurs?
Non, pour la création, on a été plusieurs parce que les gens sont venus petit à petit. Après, sur l'initiation du projet, j'étais seul. C'était un projet pour l'UEO étudiant, c'était engagement étudiant.
Ce projet engagement étudiant, tu peux nous en parler par rapport à l'association? Comment ça s'est déroulé un peu, c'est-à-dire que tu as eu le projet de créer une association de jeux via ce projet étudiant ou pas?
C'est cela.
D'accord, très bien, tout simplement.
Oui, en fait, c'est comme tout le monde, je cherchais à avoir une UEO. Je me suis pris un peu tard pour mes UEO et j'ai vu qu'il y avait engagement étudiant. Donc je me suis renseigné pour savoir ce qui était possible de faire et on m'a dit que tant que c'était un engagement au niveau pour l'université associative, qu'on peut faire à peu près ce qu'on pouvait tant que c'était réalisable. Donc j'ai proposé mon projet de faire plusieurs soirées. Ces soirées ont très bien fonctionné et l'année suivante, on a créé l'association.
L'équipe, le reste de l'équipe, j'en reviens à ma question initiale, est-ce que
Oui.
tu peux les présenter ou dire au moins combien vous êtes en tout?
Alors actuellement on est 9 bénévoles et on est tous de différents UFR, c'est ça l'avantage, c'est qu'on est de sciences, des tanneurs, de l'IUT, et donc on a vraiment cette mixité qui permet de pouvoir viser différentes personnes.
Et alors du coup sur les 9, c'est que des étudiants?
Non, on a
Non?
deux personnes qui sont non étudiantes, mais parce qu'il y en a un qui a arrêté ses études parce qu'il a fini, et le second qui est notre ludothécaire.
Ludothécaire. Est-ce que vous avez un local? où vous jouez, où vous, on y reviendra évidemment dans une seconde partie d'émission, mais vous avez des événements évidemment. Est-ce que vous avez un local fixe où ça se fait un peu dans des endroits différents? Comment ça se passe, vos événements, etc.
Alors actuellement, on a deux locales qui sont à peu près fixes. On a la maison de l'étudiant, donc au niveau du parc Grandmont, et autrement, on a le Grandmont Théâtre. Donc c'est au niveau de la résidence du Crous, mais c'est pareil, c'est au parc Grandmont. Donc on est vraiment sur le même secteur.
Et du coup, vous avez combien de jeux? Parce qu'évidemment, qui dit association de jeux de société dit aussi la possession de jeux de société. Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce que ça se met progressivement en place? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors actuellement, on réussit à mettre à donner un accès aux étudiants à peu près à 300 jeux. Donc après ces jeux, on vu qu'on doit les apporter, ils tournent. Donc on tourne à peu près à une trentaine de jeux par soirée.
D'accord.
Et en fonction de nos prévisions, on peut prendre moins de jeux, plus de jeux en fonction des jeux qu'on prend. Puisque tous les jeux ne vont pas forcément avoir les mêmes durées de jeu.
Oui, effectivement, alors ça c'est vrai, on y reviendra. Il y a des jeux qui durent très longtemps, d'autres beaucoup plus courts. Tu m'as dit tout à l'heure que le jeu le plus long auquel t'es joué, c'est 5 heures.
Oui.
C'est quand même. C'était quoi comme jeu? Est-ce que tu peux en parler? Parce que 5 heures, on pense tout de suite au Monopoly, mais c'était pas ça.
Ah non, pas du tout. C'était une partie de risque.
Ah oui, c'est vrai que le risque est long.
Oui.
Un jeu assez connu de bataille,
C'est
comment dire, de
cela.
stratégie militaire presque,
Oui.
hein.
On avait décidé de jouer sans les objectifs et donc à l'annihilation totale et ça a duré
D'accord.
très longtemps.
Oui, finalement, il y en a qu'un qui a gagné, comme
Ouais.
fallait qu'il en reste qu'un seul. Est-ce que selon toi, parce que créer une association pour alors destinée pas uniquement, tu l'as dit, au monde étudiant,
Oui.
mais qui est quand même basée sur le jeu des étudiants, est-ce que ça prouve pas que les jeunes d'aujourd'hui et les étudiants ne jouent pas assez aux jeux de société? Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué ou pas du tout?
Ben en fait, c'est pas qu'on ne joue pas assez, c'est que actuellement on est dans un contexte qui fait que comme on est étudiant, on n'a pas les moyens de jouer. C'est-à-dire, on va être étudiant, on va avoir un petit appartement ou carrément une chambre étudiante, ce qui fait qu'on ne peut pas recevoir des gens. Si jamais on peut recevoir des gens, ça va être dans une salle commune, mais avec des gens qui vont passer et ça va être moins agréable. Sinon, on va être étudiant avec peu d'argent. Quand je dis peu d'argent, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est qu'on a des dépenses à faire, on a les soirées qui sont proposées par d'autres potes et on va allouer moins d'argent au niveau des jeux de société.
Oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que le fait d'avoir des petits appartements, en tout cas, alors je veux pas faire une généralité, c'est vrai, mais pour les étudiants, c'est souvent le cas, ça permet pas aussi cet esprit de convivialité qui est nécessaire finalement au jeu.
C'est cela.
Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi le fait que les jeunes aujourd'hui sont plus attirés par des jeux virtuels? On joue souvent sur téléphone, sur console, etc. Pardon, Arthur. Et on joue souvent sur ce type de format-là. Est-ce qu'on délaisse pas finalement aussi le jeu de société?
Alors, pas du tout, parce que si vous voulez, au niveau des jeux vidéo et tout ce qui va être électronique, on perd tout ce qui va être du contact humain. C'est-à-dire, on reste quand même humain et malgré tout, on se voit à la fac, on a envie de se voir. Et même si on fait des jeux vidéo ensemble sur une soirée parce qu'on ne peut pas bouger, si on nous propose, on a quand même envie de se faire une soirée jeux de société et d'avoir une bonne ambiance.
Oui, c'est vrai que c'est finalement virtuel, réel, c'est un peu
C'est cela.
la scission entre les deux. Est-ce qu'on peut revenir sur les 300 jeux que vous possédez? Quel type de jeux sont-ils? Est-ce que c'est des jeux de rôle? Est-ce que c'est des... je sais pas, moi, des jeux... Quel type de jeu, tout simplement? Est-ce que tu peux nous en parler?
Oula, on a beaucoup de types de jeux, on a peut-être trop de types de jeux. C'est-à-dire qu'on va partir des jeux de réflexe, des jeux de plateau, des Murder Party et des jeux d'ambiance aussi. Et on va après avoir des jeux beaucoup plus gros qui vont être les jeux de stratégie, les jeux de guerre, des choses comme ça, ou des jeux de rôle. Mais en général, ces jeux-là sont demandés par les adhérents quand on va faire des grosses soirées.
Qu'est-ce qui différencie l'association Sociability Games à la Maison des Jeux de Touraine? Alors, on l'a évoqué en introduction, on les a reçus il n'y a pas longtemps dans Sortez, mais qu'est-ce qui vous différencie finalement au fond?
La différence fondamentale, en fait, c'est que nous, on va être une association étudiante qui va agir pour les étudiants.
Oui, voilà, c'est vrai que c'est vraiment ça, bien que vous n'acceptez pas que des étudiants. Vous acceptez tout le monde, évidemment.
Oui, mais quand je dis qu'on va, on agit pour les étudiants, c'est, je veux dire, on va essayer d'apporter les jeux de société aux étudiants de différentes façons, que ce soit sur l'organisation d'événements, que ce soit sur l'organisation d'une tombola, ou essayer d'offrir des lots à des étudiants, des choses comme ça. On essaie vraiment de rendre accessible le jeu d'une autre façon.
Vous, en tout cas sur le site internet, parce que j'ai l'habitude de faire mes petites recherches évidemment avant d'inviter les personnes dans le studio, il y a marqué que l'association s'engage à être éco-responsable et à assurer finalement zéro déchet dans vos événements. Ça passe par le refus des assiettes en plastique, des choses comme ça, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est important pour vous de s'inscrire finalement dans cette éco-responsabilité?
Alors oui, parce qu'en fait, avant j'ai fait des études de biologie, et pour moi c'était très important en fait d'éviter un maximum de gaspillage, que ce soit pour nous au niveau des dépenses, mais aussi pour au niveau de l'écologie. C'est-à-dire qu'on a fait de grosses dépenses pour acheter des éco-cups, pour ainsi, lors de nos collations, pouvoir éviter d'avoir des verres, de jeter des verres. Pareil, lorsqu'on fait tout ce qui va être du snacking, lorsqu'il faut faire des croque-monsieur, on a des assiettes et on les lave ensuite pour éviter justement de jeter.
Tu parles de tout ça, ça tombe bien, on va y revenir plus largement dans une seconde partie d'émission qui sera consacrée finalement aux événements que vous faites. En revanche, avant une première pause musicale, décidément, j'y arrive pas aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire si vous êtes aussi éco-responsable dans le jeu en lui-même? Je m'explique, c'est-à-dire que aujourd'hui aussi, le jeu demande une certaine matière, parfois du bois, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une éco-responsabilité à avoir de ce côté-là? Est-ce que le fait d'être éco-responsable, c'est pas aussi s'assurer que le jeu est fabriqué dans de bonnes conditions, avec des matériaux recyclables ou en tout cas durables?
Alors en fait, la fabrication écologique des jeux de société est un commerce qui est très compliqué au fait, parce que les jeux en soi sont déjà assez chers, alors se procurer du matériel éco-responsable est encore plus cher. Il en existe, mais en général, c'est pour des petits jeux qui vont être à la portée des enfants. Mais sinon, si on pouvait, on le ferait bien sûr.
Oui. Oui, donc ça, c'est vraiment un coût, en fait. Ça,
oui.
Ça implique un coût qui n'est pas spécialement adapté aux jeunes associations. Ouais. Comme.
En général, pour l'achat d'un jeu de société, on est sur une moyenne de 30 euros. Donc forcément, s'il fallait que celui-ci soit éco-responsable, on peut déjà rajouter 20% du prix. Mmh. Et donc, les jeux sont de moins en moins à portée si on fait cela.
Mais ça existe quand même, les jeux éco-responsables.
Ça commence à venir de plus en plus. Ouais. Au niveau du marché, c'est quelque chose qui commence à venir, mais c'est surtout au niveau des jouets.
C'est l'heure du quiz, je t'en avais parlé. Il me faut le jingle, Arthur, si tu veux bien mettre le jingle du quiz. Et je te pose quelques petites questions, Romain. Romain, est-ce que t'es prêt?
Oui.
Alors, première question. À ton avis, quand a été créé le Milborn, un fameux jeu de cartes? Alors, du coup, la date de création, est-ce que tu sais ça?
Oula, pas du tout, parce que je déteste le Milborn. C'est un jeu auquel j'ai toujours perdu, j'ai jamais réussi à avoir le moindre point.
Ah, et voilà, au moins c'est dit, c'est clair. Il a été créé en 1954.
Ah oui.
Donc c'est quand même un jeu qui est vieux, hein, pour
oui,
le coup.
Oui, mais déjà, il me semblait que c'était un très vieux jeu, parce qu'il y a eu des gros partenariats au niveau de différents magasins, il me semble.
Oui, effectivement, et c'est vrai que ça fait partie des jeux un peu piliers, en tout cas en France, et des jeux qui parlent à tout le monde. Le Milborn, ça parle quand même à tout le monde.
Mais le Milborn, il est français, il me semble.
Oui, 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 c'est un jeu français, évidemment. Deuxième question. Est-ce que tu peux me dire quand a été créé le Monopoly?
Oula!
Alors, pour informer nos auditeurs, quand la Maison des Jeux de Touraine est venue, j'avais posé la même question dans ce quiz. Est-ce que tu sais à quand date la création du Monopoly?
Oula, pop, pop, pom.
Alors, je te donne un indice, c'est avant 1954, donc avant le Milborn.
1943.
Ah, c'est un peu avant, c'est un petit peu avant.
Ah, zut.
C'est le 6 février 1935. Et en fait, le jeu a été créé à la suite de la crise de 1929 pour, à la base, dénoncer le capitalisme. Et il s'avère être que le Monopoly, il a complètement changé de bord. Et maintenant, c'est un jeu qui promeut finalement le capitalisme. Bref, troisième question. Est-ce que tu sais maintenant l'éditeur du Monopoly? Quel est l'éditeur du Monopoly?
Monopoly, ça serait pas par hasard Hasbro?
Bien joué, super, c'est Hasbro, effectivement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gros éditeurs de jeux dont Hasbro fait partie. Bon, on pourra l'évoquer en deuxième partie d'émission. Quatrième question. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais quel est le plus gros marchand de jeux jouets depuis 2014? La firme la plus grosse qui vend des jeux et des jouets en termes de chiffre d'affaires?
Ce serait pas Asmodée.
Non. Non, c'est une firme danoise.
Firme danoise.
Oui, qui a créé un très célèbre jeu pour enfants, un jeu d'éveil qui consiste à assembler des pièces de
Lego.
couleur. Oui, bien joué, exactement. C'est Lego qui est premier en fait du domaine de jeux jouets. Alors, c'est deux domaines qui restent très liés, qui est premier depuis 2014. Dernière question, ça en est pas vraiment une d'ailleurs. C'est une citation et le but c'est de trouver de qui c'est. Il faut jouer pour devenir sérieux. Qui a dit ça? Allez, je vais t'aiguiller un peu parce que c'est vrai que si je te dis ça comme ça, c'est compliqué. C'est un philosophe grec très très connu.
Oula, pour moi que je dise une bêtise, Aristote.
Et ben voilà, parfait. Exactement, c'est Aristote qui a dit ça. Alors, on peut peut-être commenter cette citation. Je l'aime bien parce qu'il faut jouer pour devenir sérieux. C'est un peu contradictoire, mais c'est le cas. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu penses que le jeu est essentiel finalement au développement de la personne, quoi, finalement?
Pour moi, je pense qu'il est essentiel déjà dans le développement parce qu'il va contribuer à un travail de l'imagination, déjà dans un premier temps au niveau de l'enfant. Et après au niveau de l'adulte, c'est vrai que s'il reste sur les jeux d'enfant, ce n'est pas le, on va dire que ça, ce n'est pas une bonne catégorie. Mais il y a des jeux qui sont directement à la portée des adultes.
Et ben voilà, c'était bien, bonne réponse à ces quiz, à ces quiz, à ce quiz, je dis n'importe quoi, chers auditeurs, pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut parler maintenant des événements que propose Sociability Games? Vous faites notamment des samedis et des mardis jeux,
Oui.
c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est ces événements?
Bah, en fait, on organise des soirées-jeux. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est on ouvre à partir de 19h. Donc, l'un des deux locaux, soit le Grand Montthéâtre, soit la maison de l'étudiant. Et on donne, en fait, accès à nos jeux de société jusqu'à peu près 23h, 23h30, en fonction des préférences. Et pour avoir une bonne ambiance et une bonne convivialité, on propose, en fait, via la participation de 1 euro, d'avoir une collation gratuite à côté.
Oui, et alors du coup, vous louez aussi les jeux, c'est ça?
Oui, pour ceux qui jamais ne peuvent, s'ils ne pouvaient pas venir, on propose des locations, donc c'est de 1 à 3 euros et sur la durée d'une semaine.
Ah, d'une semaine, c'est un
Oui.
peu comme, j'ai pas envie de vulgariser évidemment, mais c'est un peu comme à la bibliothèque où on arrive, au lieu de louer un livre, on prend un jeu de société, c'est ça?
Exactement.
Et on remplit une fiche. Ok. Est-ce qu'on peut parler maintenant des prochains événements? Évidemment, de l'association, parce
Oui.
que j'imagine qu'il y a plein de choses qui vont arriver.
Alors notre prochain événement, c'est la semaine prochaine, ça va être mardi 5 décembre. Soirée jeux de société. La spécialité de cette soirée, c'est qu'on va finaliser notre tombola, parce qu'on a organisé pendant les derniers mois une tombola pour pouvoir faire gagner des jeux de société aux étudiants. Et pendant cette soirée-là, on va faire les dernières ventes pour notre tombola.
Et d'ailleurs, à chacun de vos événements, vous faites des collations gratuites, c'est ça?
Oui.
Alors d'où, on en a parlé tout à l'heure par rapport à l'éco-responsabilité, mais d'où est venue cette idée? C'est un peu étrange, mais à la fois compréhensible, parce que finalement, le monde du jeu, c'est aussi partager un moment, et ça passe aussi par des collations et des petits goûters, des choses comme ça.
Ben, en fait, il est venu d'un constat simple, c'est qu'un jeu de société, la seule difficulté qu'il peut y avoir, en général, c'est les règles et les mécaniques de jeu. Donc, en général, pour que celle-ci soit facilement assimilée, il faut qu'on soit dans les meilleures conditions. Et donc, en général, ça passe par une bonne ambiance et ça peut être facilité par de la nourriture. Parce que, au niveau de tout ce qui va être recherche scientifique, la nourriture est un gros facteur de confort.
De confort, oui, mais c'est vrai que c'est important. Et puis le jeu de société aussi, c'est un tout. C'est pas seulement
C'est cela.
le temps qu'on passe sur la partie.
Un
C'est
jeu de
aussi.
société n'est rien en fait sans une bonne ambiance.
Ouais, effectivement. Est-ce qu'on peut évoquer aussi les partenaires de Sociability Games? J'imagine que vous en avez. Si oui, lesquels?
Oui, donc on a plusieurs partenaires. En premier, on a l'université, grâce à qui on peut avoir des locaux. On a aussi le CROUS, qui nous prête des locaux. Ensuite, viennent la SMECO, qui nous aide de différentes façons. Et on a, je ne me trompe pas, plusieurs éditeurs, dont Repo Production et La Règle du Jeu.
Alors brièvement, SMECO, qu'est-ce que ça signifie? C'est peut-être un peu naïf comme question, mais est-ce que tu peux rappeler, me rappeler ce que ça veut dire?
La SMECO, que je me souvienne, je ne sais plus quelles sont les définitions des...
Ouais, des sigles exacts. En tout cas, c'est un de vos partenaires.
Ouais, c'est la sécurité sociale étudiante.
D'accord, ok, tout simplement. Oui. Alors du coup, pause, mais je dis n'importe quoi, ça pose de la question du financement. Oui. Parce que, évidemment, une jeune association comme ça a besoin de financement pour acheter des jeux, pour les louer, etc. Comment vous faites? Comment vous vous organisez de ce côté-là, sur le volet financier?
Alors, sur le volet financier, au début, on a essayé d'être le plus équilibré possible, donc sans réellement faire de grosses entrées. Puis après, on a eu la chance de gagner un concours qui, là, a pu faire booster nos finances. Et puis maintenant, grâce à cela, on a pu s'acheter du matériel pour pouvoir faire des animations professionnelles.
Alors, les animations professionnelles, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste?
En quoi ça consiste? En fait, c'est que nos bénévoles sont des bénévoles animateurs et on propose, en fait, pour des organismes, pour des entreprises, de faire des animations de jeux de société. Donc, en fonction des tarifs, on propose une dizaine de jeux de société. Sinon, si les personnes sont intéressées, on propose des jeux en bois.
Donc, concrètement, vous allez dans les entreprises pour... avec les jeux pour jouer, ou vous les faites venir dans vos locaux pour échanger autour d'un jeu?
Donc,
comment ça se passe?
En fait, soit ils font une location des différents jeux, soit nous, en tant qu'animateurs, on vient les animer dans leurs locaux ou dans le lieu qu'ils ont choisi.
Et c'est toutes sortes d'entreprises,
il n'y a pas de distinction.
Il n'y a pas de distinction particulière. Ouais. Est-ce qu'on vient souvent vous voir, du coup, pour ça? Est-ce que des entreprises viennent souvent vous voir, ou c'est un peu en phase
là,
ascendante?
Là, on est en phase ascendante parce qu'on commence à avoir plusieurs demandes qui commencent à venir. Donc, on essaie de travailler sur différents projets pour pouvoir proposer un service de qualité.
Oui, parce qu'on le rappelle, l'association a à peine un an, donc toute jeune,
oui.
Puisqu'elle a été créée en janvier dernier. Justement, comment tu vois, toi, l'évolution de l'association, peut-être pour l'année prochaine ou pour les prochaines années à venir? Parce que j'imagine que tu as plein de projets pour étendre le jeu de société à Tours, et puis essayer de montrer et d'être présent sur l'échiquier du jeu.
Oula, j'ai pas réellement pensé, on va dire. Déjà que ça va beaucoup trop vite pour nous. On a été depuis un an sur une avancée qui est tellement rapide que même nous, ça nous surprend.
Ah, donc c'est... Oula, si je parle pas dans le micro, ça va pas marcher. Ça veut dire que c'est en train de prendre?
Ouais.
Concrètement,
c'est vraiment en train de prendre. C'est vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer au final au niveau de l'université et de la ville de Tours.
Ouais. Et alors du coup, pour l'année prochaine, il n'y a pas encore de projet particulier, ou vous y avez déjà réfléchi?
Pour le moment, on n'a pas prévu de nouveaux projets. On essaie au niveau du conseil d'administration de se donner quelques idées, mais pour le moment, c'est pas encore posé.